Il est 8h21.
France Inter. Frédéric Mettezo. Le 6-9.
C'est l'heure du grand entretien. Vous pourrez interroger notre invité dans 20 minutes environ au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr. Bonjour Jean-Yves Camus.
Bonjour.
Chercheur en sciences politiques, directeur de l'Observatoire des radicalités à la Fondation Jean Jaurès. On vous a invité, Jean-Yves Camus, pour comprendre ces radicalités. Radicalité au pluriel. On va commencer par les gilets jaunes. Bien sûr, il ne s'agit pas de globaliser ou de généraliser, mais Jean-Yves Camus, est-ce que le gouvernement a eu raison très tôt de parler d'une présence forte de l'ultra-droite en marge de certaines manifestations?
Il ne s'agit pas de nier cette présence. Elle existe, elle a été revendiquée d'ailleurs par un certain nombre d'acteurs, à coups de tweets ou sur leur page Facebook, mais cette présence ne réduit pas le mouvement à cela. Ça n'est ni son origine, ni sa colonne vertébrale, et de toute manière, politiquement, et c'est la seule chose qui importe, les Gilets jaunes ont posé un certain nombre de revendications qui sont d'ordre social, et il faudra bien y répondre. Quand bien même, il y aurait à l'intérieur du mouvement quelques groupes qui cherchent aujourd'hui à le radicaliser, en l'occurrence à droite. D'autres veulent le radicaliser du côté de l'ultra-gauche. Donc ça n'est pas parce que des groupes ont vu l'occasion d'acquérir une visibilité en allant se greffer sur le mouvement qu'ils résument ce mouvement.
Ils se sont greffés en quelque sorte sur ce mouvement, l'ultra-droite et l'ultra-gauche.
Alors, de manière différente, l'ultra-gauche a commencé par regarder le mouvement des Gilets jaunes avec un brin de circonspection. Il y a un texte très intéressant qui a circulé tout au début du mouvement sur le site Paris Lutte Info, un des porte-voix de cette mouvance, et qui exprimait un certain malaise face à des revendications qui étaient vues d'abord comme profondément anti-écologiques, et ça compte à l'ultra-gauche, on l'a vu à Notre-Dame-des-Landes, hein, le soutien à l'écologie. C'était des revendications un peu petit-bourgeoises pour ces groupes qui se plaignaient notamment que les gens mobilisés par la taxe contre les carburants, on ne les avait pas vus dans les manifestations contre le projet de loi immigration-sécurité, qu'on les avait pas beaucoup vu dans les manifestations contre la loi travail, et que là, subitement, ils se réveillaient, sitôt qu'il était question, en clair, de leur voiture, de leur trajet, de leur budget. Et puis, petit à petit, cette ultra-gauche a vu tout le potentiel qui existait dans cette mobilisation horizontale, on le rappellera jamais assez, qu'elle pouvait essayer d'orienter en partie, et qui possédait, quel que soit le côté déstructuré de ces revendications, un capital de révolte qui était extrêmement, et qui reste extrêmement puissant, de révolte contre l'État, parce que l'objectif de l'ultra-gauche, rappelons-le, c'est quand même, dans les milieux libertaires, dans les milieux autonomes, la destruction de l'État.
Mettre à bas l'État. Jean-Yves Camus, vous parliez tout à l'heure d'un texte de cette mouvance ultra-gauche qui se mettait un peu à distance du mouvement des Gilets jaunes. Il y a un autre texte, ou plutôt une interview sur Mediapart d'Éric Hazan. C'est un des intellectuels de l'ultra-gauche. C'est lui qui avait édité cet essai qui s'appelle « L'insurrection qui vient ». Et quand on l'interrogeait dans Mediapart sur la présence de l'extrême droite, ce penseur d'extrême-gauche disait, ouvrez les guillemets, « ça ne me gêne pas, les ennemis de mes ennemis ne sont pas vraiment mes amis, mais un peu quand même. » Est-ce que vous voyez, on va peut-être pas parler de convergence, mais des intérêts communs, des intérêts objectifs entre ultra-droite et ultra-gauche dans ce mouvement des Gilets jaunes?
La phrase d'Éric Hazan est, à mon sens, à la fois détestable, lourde de conséquences et assez significatif du type de confusion qui peut régner dans certains esprits. Si Éric Hazan souhaite s'allier, même un peu, avec certains militants d'ultra-droite, il faudra qu'il se souvienne un jour qu'il s'appelle Éric Hazan. Et que ça vous rattrape, un jour ou l'autre. Je sais bien que l'homme est un antisioniste conséquent, mais on a vu pas mal d'antisionistes conséquents se faire rattraper par la patrouille de l'antisémitisme. Donc, ceci mis à part, je vois pas pour ma part comment l'ultra-gauche et l'ultra-droite pourraient faire chemin ensemble. D'abord parce que on entend du côté de l'ultra-droite un certain nombre de gens attirés par les sirènes d'un régime militaire qu'ils fantasment, comme si les chefs de l'armée française avaient encore des velléités putschistes. Alors on entend de temps en temps
le soi-disant porte-parole Chalençon qui dit qu'il faudrait nommer le général de Villiers à Matignon.
De Villiers n'a rien demandé. Il a un poste en or au Boston Consulting Group et je pense qu'il est beaucoup plus intéressé par ses affaires et la promotion de son livre que par le fait de devenir le locataire de Matignon. Mais ça prouve à quel point on a encore le fantasme boulangiste quand même dans cette droite qui n'est pas la plus radicale, dans cette droite plébiscitaire qui rêve toujours de l'homme fort. Le seul problème, c'est que faire du boulangisme sans avoir du général boulanger, c'est un peu compliqué. Et puis on a quelque chose qui est très intéressant par contre et qui me semble faire tronc commun entre les deux mouvements, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, au fond, est un mouvement qui demande la prolifération des droits. La prolifération des droits individuels. Dans le petit groupe des Gilets jaunes qui se réunit place de la Réunion, dans le 20e arrondissement, à côté de chez moi, les affichettes qui annoncent les assemblées générales parlent pêle-mêle de droit au logement, de droit en termes de salaire minimum, poursuivent par, je cite, l'ensemble des droits individuels, évidemment le référendum d'initiative citoyenne. Bref, on arrive à une demande de prolifération immédiate de droits individuels dénués du moindre équivalent en termes de devoirs. Exemple, les représentants des Gilets jaunes auraient pu, au bout d'un certain temps, je peux admettre que pendant les 8 premiers jours, ils ne savaient pas comment on déclare une manifestation. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, quand même. On peut faire l'effort de la déclarer.
Là, on en est à 2 mois et demi.
Voilà. Non, on la déclare pas. On la déclare pas. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine. Bon. Prolifération du droit individuel. Il y a des normes. Quand on ne veut pas déclarer une manifestation, quand on réclame, quand on exige plus exactement la libération d'Éric Drouet, on n'a rien à exiger. Il a été interpellé, il a été remis en liberté, il sera
jugé au mois de juin.
Voilà, tout est bien. Quand on exige la démission du président de la République, la dissolution de l'Assemblée nationale, cette manière d'exiger à tout bout de champ, tout et n'importe quoi, alors que les Français ont fait des choix et qu'ils auront la possibilité, dès le mois de mai prochain, de donner un nouveau signal politique s'ils ne sont pas contents, puis ensuite de défaire ces choix aux municipales et aux prochaines élections législatives et présidentielles s'ils en expriment le désir. On est dans une sorte de dictature de l'urgence où, si l'on va jusqu'au bout du programme des Gilets jaunes, et notamment jusqu'au référendum d'initiative citoyenne, avec sa partie révocatoire notamment, et avec la possibilité de revenir sur toutes les lois qui ont été votées, enfin, très honnêtement, on est dans un chaos institutionnel total.
Et justement, Jean-Yves Camus, est-ce que nous sommes entrés dans une radicalisation anti-État? On entendait dans le journal de 8h de Sarah Guibaudot ces représentants du lobby des automobilistes qui eux-mêmes s'inquiètent des dégradations de radars. Il y a aussi de plus en plus de dégradations sur les centres des impôts. Il y a eu des attaques de policiers. Est-ce que les Gilets jaunes montrent une radicalisation, une mise à distance par rapport à l'État?
Mise à distance par rapport à l'État, oui, parce qu'il est vu précisément comme autre chose que ce qu'il est. Il est vu comme l'émanation d'une sorte de coterie, ces fameuses élites auxquelles je mets des guillemets, qui auraient, au fond, dévoyé l'intérêt général et l'appareil d'État pour en faire leur propriété privée. L'État ne servirait plus l'intérêt général. Et là, effectivement, au niveau de défiance où l'on est arrivé, il y a un risque. Le risque, c'est que cette défiance vis-à-vis de l'État donne lieu à des explications de type complotiste. On l'a vu, au bout d'un moment, quand vous estimez que l'État est entre les mains d'un clan ou d'élites autoproclamées, qu'il ne joue plus son rôle, qu'il opprime, qu'il faut renverser la table pour établir un autre régime, il faut que vous expliquiez au peuple pourquoi cet État tient debout, pourquoi il arrive à subjuguer tant de monde pendant si longtemps. Et très vite vient alors le complot médiatique, parce que le mouvement des Gilets jaunes marque tout de même un degré de défiance vis-à-vis des médias, tous, radio, télévision, presse écrite.
Tout ce qui est intermédiaire.
Inégalé. Et ensuite, il y a des gens qui peuvent être tentés d'expliquer que si ce système tient debout, c'est parce qu'il y a des tireurs de ficelles. Et on a vu L'antisémitisme pointait le bout de son nez. On a vu l'antimassonisme revenir aussi, alors qu'il était tout de même extrêmement confiné aux marges de l'extrême droite radicale.
Expliquez-nous ça.
Ben, l'antimaçonnisme, qui a toujours existé dans l'histoire de l'ultra-droite française, c'est cette croyance selon laquelle les francs-maçons, en général, serait une sorte de pouvoir secret.
Les forces judéo-maçonniques,
maçonniques, judéo-maçonniques, ouais. Toutes les variantes existent. Donc c'est cette idée selon laquelle les francs-maçons seraient une sorte de pouvoir secret qui tiendrait la République en constituant à l'intérieur de l'appareil d'État et dans les milieux financiers, médiatiques et ailleurs, des réseaux d'entraide qui confisqueraient au fond les vrais mécanismes de décision.
Cette vision complotiste, cette vision des tireurs de ficelles, ça a toujours existé. Là, c'est évidemment amplifié, démultiplié par les réseaux sociaux. On atteint la cote d'alerte. C'est une forme de radicalisation des esprits.
Oui, c'est une forme de radicalisation, c'est plus exactement une forme de vacuité des esprits, parce que tout cela n'explique rien, si vous voulez. On arrive à un stade de radicalité verbale et de radicalité théorique, c'est certain, qui fait extrêmement peur. Moi, ce qui m'a fait peur, si vous voulez, c'est pas Macron démission, qui est un slogan qu'on peut prononcer quand on n'est pas d'accord avec le président de la République, mais quand j'ai vu sur des gilets jaunes Macron pendaison, là, véritablement, on est tout à fait en dehors de ce qui est permis en République.
Aujourd'hui, le journal La Croix dit « ce mouvement peut être une chance, ce peut être une crise utile, une chance à saisir ». Vous n'avez pas, j'ai le sentiment, cette vision aussi optimiste que celle du quotidien chrétien La Croix ?
Ça peut être une chance à saisir si jamais le grand débat national qu'annonce le gouvernement, qui aura lieu, débouche sur quelque chose. Mais je ne suis pas certain que ce soit le cas, notamment parce qu'un certain nombre de leaders des Gilets jaunes, dès le départ, ont estimé que le cadre était insuffisant, voire que c'était une manière de mettre leurs revendications sous le boisseau. Donc je souhaite qu'il y ait un débouché consensuel à ce débat et que ce mouvement serve à quelque chose. Il peut servir à beaucoup de choses d'ailleurs, selon qu'il se présentera ou non sous une forme politicienne aux élections européennes de mai 2019. Il peut notamment servir, c'est le Parisien ce matin qui en parle, à renforcer une liste LREM dont les perspectives ne sont pas a priori aussi fameuses que
aussi
cela.
Aussi flamboyantes.
Voilà. Ça peut aussi servir à cela.
Il est 8h34, les auditeurs nous attendent. Bonjour Georges, vous nous avez appelé au 01 45 24 7000. Jean-Yves Camus vous écoute.
Bonjour Monsieur Camus, bonjour à France Inter. Oui, j'étais un peu scandalisé d'entendre que vous stigmatisez le mouvement des Gilets jaunes, que vous les remettiez avec les radicalisés. Je pense, à mon avis, que d'abord j'ai écouté le rédacteur en chef de La Croix, je pense que sa position est très très juste, à mon avis. Et je pense que vous avez dit qu'il y avait une dictature de l'urgence. À mon avis, pour moi, il y a une dictature du sachant. Vous mettez dans les gilets jaunes, c'est vrai, j'ai entendu sur des ronds-points où j'étais, des gens parlaient donc des francs-maçons. Mais c'est à nous, des gens qui sont normaux, on va dire, d'équilibrer, d'aller expliquer sur les gilets jaunes, sur les ronds-points, comment c'est la nation. C'est un ensemble de gens ordinaires et pas ordinaires pour vous, qui sont de l'échiquier politique de droite, d'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Donc il faut que des gens comme nous qui aillent sur les ronds-points, qui allions sur les ronds-points, expliquer ce que c'est. Et il n'y a pas que des radicalisés sur les ronds-points. Moi, de considérer des millions de Français comme des gens radicalisés, je pense qu'il y a un oubli de la crise sociale. Et je rappellerai...
Oui, s'il vous plaît, Georges. Voilà. Merci, Georges. Jean-Yves Camus vous répond.
Ah ben oui, tout simplement que j'ai bien pris soin de préciser dès le début de mon intervention que les radicaux d'extrême droite et d'ultra-gauche étaient minoritaires, qu'ils ne formaient pas la stature du mouvement et qu'ils n'en déterminaient pas les objectifs. Une fois que c'est dit, il faut aussi se mettre dans la tête que la radicalité, ça peut être tout simplement l'envie de renverser la table sans aucune coloration politique, parce qu'on est peut-être à la veille de l'irruption en France d'un mouvement 5 étoiles à notre sauce, c'est-à-dire d'un objet politique qui n'a pas de fondement ramenable à l'ultra-droite ou à l'ultra-gauche. une forme de mouvement populaire, une sorte d'ovni politique qui pourrait émerger ici comme il a émergé en Italie, où je dis absolument pas que l'extrême droite et l'ultra-gauche sont le cœur, la masse des gilets jaunes.
Au contraire, vous dites qu'ils sont plutôt la situation, périphérie, entre guillemets.
Quant à l'urgence de la situation sociale, je l'aperçois parfaitement. Il y a des revendications chez les gilets jaunes, qui étaient d'ailleurs les revendications de départ, qui ont trait à des revendications vitales sur le revenu qu'il est nécessaire d'avoir pour simplement vivre, aller voir survivre à peu près décemment.
Retournons au standard. Bonjour Christian.
Oui, bonjour. Je voulais poser une question à M. Camus et aussi à vous d'ailleurs Frédéric. Allez, c'est un petit peu plus large. Je voudrais savoir pourquoi la presse est aussi prudente, très frileuse avec certains actes de racisme sur des ronds-points de gilets jaunes. Je suis bien d'accord avec l'intervenant précédent et avec vous, on est à la périphérie. Mais c'est une périphérie où il se passe des actes graves. Deux exemples dans les Hauts-de-France, près de chez nous, à Saint-Quentin, vous avez au début du mouvement des gilets jaunes qui obligent une femme voilée à s'arrêter pour qu'elle se dévoile. Elle restera à la bloquer une heure. Ce sont des vieux qui la laisseront partir. Autre exemple, 15 jours plus tard, à Flic Secours, et vous
dans
avez une vidéo d'une vidéo de 10 minutes, vous voyez des gilets jaunes qui ont dénoncé des migrants dans une remorque à la gendarmerie, et on
Absolument.
Voit la citerne se vider des migrants, avec 10 minutes de discours d'un gilet jaune infâme, je vous donne même pas les termes, je vous conseille tous d'aller voir cette vidéo.
Où l'avez-vous Comment avez-vous appris ces nouvelles, Christian?
Alors, je suis d'accord avec vous que la première information, je l'ai eue par une journaliste courageuse du Courrier Picard, sur Saint-Quentin,
oui.
sur le voile.
Donc qui a fait son travail.
Qui a fait son travail, mais qui n'a pas été reprise, si vous voulez, cette information. La deuxième information, je l'ai eue sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas eu du tout dans la presse, cette citerne qui se vide, c'est abject avec les migrants dénoncés par les gilets jaunes. Ça n'est pas du tout la position de tous les gilets jaunes, je le sais bien, je m'y arrête, je discute avec eux, mais ça existe. Et ce qui me surprend un peu, Frédéric, et même M. Camus, c'est la non-reprise de ces éléments précis.
Alors, Christian, avant d'écouter la réponse de Jean-Yves Camus, permettez-moi juste de vous faire une petite remarque. Ces infos ont été reprises dans plusieurs médias, comme on dit, grand public, y compris France Inter, mais peut-être ne les avez-vous pas entendus. Je voudrais juste souligner un paradoxe, Christian. D'un côté, Georges nous dit « Attention, vous nous caricaturez en radicaux » et vous-même, Christian, vous nous dites « Attention, vous n'insistez pas assez sur les dérives ». Finalement, c'est difficile de satisfaire tout le monde.
Je suis d'accord avec vous. C'est ce juste équilibre à trouver. Je suis tout à fait d'accord avec vous et avec l'intervenant précédent, mais ne pas cacher aussi ce qui se passe précisément. Vous savez, le voile de la dame, cherchez bien, même France Inter, que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je vous écoute et je vous félicite de l'émission de ce matin.
Mais et on vous remercie.
Inter n'a pas repris cette information de la dame voilée.
Mais écoutez, Jean-Yves Camus va vous répondre, Christian.
Alors écoutez, moi je suis parisien, donc je n'ai pas eu l'information par le Courrier Picard, même si je le regarde de temps en temps, je l'ai eu par les chaînes d'information en continu et par les journaux que je lis, donc par les quotidiens nationaux que je lis. Dans les deux cas que vous citez, c'est-à-dire l'affaire de ces gilets jaunes qui se prennent ou pour des douaniers ou pour des policiers, et dans l'affaire de la personne à qui on a demandé d'enlever son voile. Donc cette information a été reprise. Je l'ai eu pour ma part très peu de temps après que les faits se soient déroulés. Il y a une difficulté qui incite à la prudence, c'est que il y a une communication assez peu précise autour d'un certain nombre d'incidents à caractère raciste ou antisémite qui se sont déroulés. Je m'explique. Il y a donc des manifestants qui ont entonné le chant rendu tristement connu par Dieudonné lors de la manifestation il y a 8 jours à Montmartre.
Au pied du Sacré-Cœur.
Au pied du Sacré-Cœur. Alors, on va donc, si on se précipite un petit peu, dire des militants d'ultra-droite ont entonné un chant antisémite emprunté à Dieudonné. Bien. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas, à ce stade, l'identité et l'appartenance politique de ces gens. Si on veut donc faire un travail très rigoureux, on ne peut que constater une chose, c'est que ce chant a bien été entonné et qu'il est inadmissible, mais moi je veux pas aller trop vite non plus. Tant que je ne sais pas exactement qui sont ces gens, je vais pas mettre sur le dos d'un groupe précis une information que nous n'avons pas. Il y a eu des comparutions immédiates, par exemple, un certain nombre de militants appartenant à des mouvances ultra semblent avoir été jugés en comparution immédiate pour des faits de dégradation. mais on a finalement fort peu d'éléments probants. Le gouvernement a choisi de mettre en avant la présence de l'ultra-droite très tôt, mais sans donner, pour ma part je le regrette, suffisamment d'éléments précis pour que nous puissions évaluer très précisément la part que cette ultra-droite a eue dans les mobilisations, dans les dégradations et dans les incidents violents.
Avant de retourner au standard, retrouver Jean et Janice, Jean-Yves Camus, pour élargir un petit peu le spectre, élargir la focale, toute cause, j'allais dire, sécrète ces radicaux. Quelles sont les nouvelles radicalités à venir? C'est quoi la radicalité écologique, animaliste, féministe? Ou d'autres?
C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on est dans un climat où on parle de violence et que si je mentionne de nouvelles radicalités, on va évidemment me dire mais vous les inscrivez dans une optique de violence au moins potentielle. Non, je crois qu'il y a quelque chose qui émerge. C'est effectivement l'écologie radicale, les défenseurs radicaux des droits des animaux qu'on a vu ces derniers mois dans des actions qui pourraient être on va dire assez fortes, n'ont pas encore fort heureusement eu de conséquences sur les personnes. Enfin, les attaques de boucherie, un jour ça peut effectivement tourner mal. Et puis je crois qu'on n'en a tout simplement pas fini avec l'évolution des formes de détestation de l'État qu'on a vu à l'œuvre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parmi les gens qui se sont retrouvés en première ligne face aux forces de police et qui sont allés, passez-moi l'expression, au contact, il y avait beaucoup de primo-manifestants. Il n'y avait pas une majorité de militants d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Il y avait des gens qui venaient, sans connaître d'ailleurs les codes d'engagement de la police et les codes habituels des manifestations un peu chaudes, et qui, à un moment donné, parce qu'il y a un effet de foule, parce qu'il y a un effet de d'émulation psychologique, se retrouvaient à commettre des actes que probablement ils n'auraient pas pensé commettre avant de partir de chez eux le matin pour participer à cette manifestation. Donc on a tout simplement cet engagement physique de nombreux manifestants des Gilets jaunes qui ont voulu, pour la première fois de leur vie, peut-être pour la seule, oui, dans le cas de certains, montrer une forme d'exaspération qui passait pas simplement par le fait de porter une pancarte, mais par le fait de s'en prendre physiquement ou symboliquement à ce qu'ils détestent.
On retourne au standard de France Inter. Bonjour Janice.
Bonjour, je souhaiterais rebondir effectivement sur les propos de Monsieur Camus. D'ailleurs, merci pour son intervention. Mais cette critique générale de la violence des Gilets jaunes, est-ce que vous ne la trouvez pas dans un sens quand même hypocrite? Parce que la violence dans des mouvements de contestation, elle a toujours existé. Alors pourquoi autant les stigmatiser par rapport à la violence même? Voilà.
Merci Janice. Alors Jean-Yves Camus, sélection, dénonciation hypocrite, dit Janice, ou dénonciation sélective? La violence a déjà existé dans d'autres types de manifestations.
Évidemment qu'elle a existé, et j'allais dire au bénéfice de l'âge, bien que je n'ai que 60 ans, je vois des gens aujourd'hui qui nous expliquent que les voltigeurs de la police, c'est quelque chose d'absolument affreux. Dans les années 70, dans les années 80, les voltigeurs de la police, on les avait à chaque manifestation, et effectivement, il fallait très très vite se garer sous les porches pour pas les prendre dans les jambes.
Il y a eu des morts, Malik Oussekine, ça n'a même pas 30 ans.
On a une diminution sur les dernières décennies de la violence en manifestation de rue, incontestablement pour ceux qui ont connu les années 70-80. Mais là, ce qui a fait qu'on s'est intéressé à la violence, c'est que la majorité des manifestants ne faisaient pas partie d'une mouvance constituée. Pourquoi est-ce qu'il y a un traitement peut-être disproportionné de la violence des Gilets jaunes et de ce qui se passe dans d'autres manifestations? C'est que dans d'autres manifestations, les violences sont le fait de mouvances éminemment politisées qui inscrivent la violence dans leur agenda politique, voire qui la revendiquent, alors que là, on a affaire à une masse de citoyens lambda dont il est plus compliqué peut-être de comprendre pourquoi, à un moment donné, ils font autre chose que d'agiter des pancartes. Mais c'est précisément ce qui fait tout l'intérêt, enfin en tout cas sociologique, de ce mouvement. C'est qu'il montre à un moment donné qu'il n'est pas besoin d'idéologie constituée se réclamant d'une radicalité de droite ou de gauche pour que le citoyen choisissent de défendre ses intérêts dans des formes de manifestation peut-être moins policées que lorsqu'elles sont contrôlées par des organisations politiques ou syndicales.
C'était le grand entretien de Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités à la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être venu ce matin dans le 6-9 de France Inter.